Dans le cadre de l'émission L'écho de ma commune, animée habituellement par Marie-France Guimard-Roche, que je remplace temporairement, je reçois aujourd'hui M. Maxime David, élu conseiller municipal à Dreux. Bonjour Monsieur le conseiller, merci d'avoir accepté mon invitation à venir boire un café dans les locaux de Radio Grand Ciel. Mais votre café, avec ou sans sucre?
Bonjour et merci de l'invitation et sans sucre.
Je vous propose de nous parler de notre vie locale autour de trois dates. Dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales. Dimanche 28 juin, second tour. Et puis jeudi 9 juillet, élection du président et des vice-présidents de l'agglomération de Dreux. Et une quatrième sur la transition écologique. J'ai invité Annie Duval-Pétrix, journaliste à M-Taville, qui vous posera une question en fin d'émission. Et je vous ferai choisir un dessin pour mettre sur ma page Facebook. Voilà le déroulé de cette émission enregistrée d'une trentaine de minutes. Au premier tour, le 15 mars, vous avez mené la liste du Renouveau Drouet face à 9 autres listes. Vous arrivez quatrième et aucun candidat n'est élu, dans les 4 listes d'ailleurs. La participation est très en deçà de la moyenne nationale. D'un côté, 10 listes prouvent-elles une certaine vitalité citoyenne ? Ou d'un autre côté, avec une participation à 35%, prouve au contraire un désintérêt de la chose publique. Vous analysez ça comment? Les électeurs ont-ils saisi les différences entre les 4 premières listes?
Je dirais qu'il y a un peu de tout. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la très faible participation est uniquement liée au contexte du Covid, par exemple. Je pense qu'il y a autre chose qui se joue et qu'il faut regarder lucidement. Je l'avais dit, hein, je considère qu'il y a un détachement de plus en plus marqué de la vie démocratique de la part des citoyens pour tout un tas de raisons. C'est assez inquiétant. Vous l'avez dit, il y avait 10 listes. On peut considérer qu'il y avait un choix suffisamment large pour permettre à chacun de s'y retrouver. Bon, manifestement, ça n'a pas suffi. Sur les 10 listes, je pense que ça traduit surtout la fragmentation politique qui n'est pas... présente cadreux, mais qui l'était cette fois-ci, et je pense que c'est toujours intéressant d'analyser ce qui se passe à Dreux comme étant précurseur d'une situation plus générale. Donc fragmentation politique d'un côté, crise sanitaire bien sûr, mais surtout un phénomène de fond qui est un éloignement en fait, des citoyens de la politique en général et de la valorisation de ce qu'est la politique. Et je pense qu'on a trop souvent tendance à laisser dire la politique, pardonnez-moi l'expression, mais tous pourris. Je pense qu'il faut assumer un discours qui revalorise l'action politique. Moi, c'était ma première élection. Je ne peux pas cautionner de faire partie de ce tous pourris.
J'espère bien. Voilà. Donc, oui.
J'avais des choses à dire. J'ai eu l'occasion de les dire et j'en ressors vraiment satisfait à ce niveau-là. Déçu de la faible participation. Déçu du manque de débat dans ce premier tour. Je pense que ça n'a pas permis justement de déployer les différences entre chaque liste. Mais voilà, face à ça, maintenant, il faut s'interroger et essayer de travailler chacun à son niveau pour faire mieux la prochaine fois, y compris en termes de mobilisation.
Mmh. L'absence de médias, peut-être,
a
encouragé un petit peu ce genre d'absence de débat.
La démocratie, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement une offre politique et une demande citoyenne. Il y a tout un tas d'acteurs qui ont leur rôle à jouer. Les médias en ont un, la société civile associative en a un autre. Il faut aussi savoir innover. Je pense qu'on est dans une période qui ouvre beaucoup d'espace et de nouvelles façons de faire. Par exemple, on va encore être en campagne l'année prochaine pour des élections locales. En contexte sanitaire, cette fois-ci on le sait d'avance, ce qui n'était pas le cas le 15 mars.
Exact, oui.
Donc il faut s'interroger, comment faire campagne dans ces conditions et pas se satisfaire de simplement la faible participation qui va devenir structurelle et même sur une pente encore plus descendante si on ne fait rien.
Oui, mais ce qui est inquiétant à mon sens, c'est que les abstentionnistes vont être majoritaires. Est-ce que ça ne va pas changer quelque chose dans la vision politique justement ?
Mais c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas. Alors, bien sûr, on a tendance à toujours se réfugier derrière le chiffre de valeur absolue de votants. Et heureusement, parce que sinon, on devrait assumer de face que nous sommes souvent élus avec une minorité de citoyens. Mais à qui la faute ? Est-ce aux candidats qui sont élus de la sorte ou aux citoyens qui ne parviennent plus à trouver...
C'est sûrement très partagé.
Voilà, je pense aussi.
Oui. Pour le deuxième tour, vous vous alliez avec deux listes du quatuor de tête, Michaël de la Giraudet et Valentino Gambuto, pour ne faire qu'une seule liste unie pour Dreux. La participation est encore plus faible qu'au premier tour, 33%. Votre liste d'union obtient 41% des voix, mais 8 sièges sur 39. C'est la loi électorale, certes, mais est-ce logique ? Et surtout, quel poste obtenez-vous ? Comment se passe le premier conseil municipal avec l'élection des adjoints, la répartition des postes, les délégations auprès de l'agglomération ?
Beaucoup de questions. D'abord, sur cette liste, j'aimerais revenir sur cette expérience de l'entre-deux-tours, qui est quand même assez unique. On assistait à une alliance, rappelons-le, hein, entre trois forces politiques identifiées sur des bords politiques différents. Et on a réalisé cette liste d'union. Moi, je vais vous dire, avec le recul, ça fait maintenant 3-4 mois qui nous séparent du second tour, j'en suis toujours très fier de ce qu'on a fait, parce que on a montré... Justement, on disait dans cette période où on peut ressentir un peu de lassitude citoyenne, un petit peu de toujours les mêmes. Eh bien là, on a innové. On a ouvert des nouvelles perspectives, on a créé des nouveaux messages politiques. La capacité à se rassembler au-delà de différences d'opinion sur un intérêt commun, l'intérêt d'un territoire et d'une ville, des positions communes sur des sujets d'avenir. La transition écologique, c'était par exemple quelque chose qui nous reliait très fortement et en opposition à la liste qu'on a combattue. Donc voilà, je suis très fier.
Qui n'est pas très verte, d'après vous.
Eh bien, je suis content que vous partagiez ce constat. C'est le constat qu'on a fait et qui nous a poussé à développer ce message très fortement durant la campagne. On a signé, par exemple, le pacte pour la transition écologique, ce qu'il n'a pas fait. Au-delà de l'exercice politique, il y avait vraiment une démarche de fond, de dire aux citoyens qu'on peut savoir se rassembler, on peut créer des nouvelles idées, traverser nos divergences pour créer du commun. Je pense qu'on est aussi dans une période où il faut recréer du collectif et de la vision commune. Ce qui n'empêche pas des différences, elles sont toujours là, on les assume, mais savoir faire la part des choses, ça fait aussi partie, je trouve, moi, de la complexité du monde d'aujourd'hui qu'il faut savoir, là encore, valoriser. Les choses sont complexes, eh bien, assumons-le et essayons de construire des ponts. Et on l'a prouvé. Donc ça, j'en suis très fier. Après, sur, effectivement, l'installation, bon, déjà, le résultat, évidemment, décevant. J'aurais préféré qu'on puisse recueillir l'adhésion des Drouais. Il y a quand même des beaux signaux qui ont été émis, moi, je trouve, dans ce second tour. Il faut s'appuyer dessus, aller plus loin. Mais voilà, conserver ce qu'il y a eu de mieux dans cette campagne, c'est-à-dire cette symbolique très forte d'union. Moi, j'en suis vraiment très fier. Je pense qu'elle a trouvé du répondant chez les Drouais. Ça...
41%, c'est pas la Bérésina, de toute façon. Hein,
et puis, je veux dire, c'est même quelque chose à plus long terme. On a semé des graines qui peuvent germer. Moi, j'y crois beaucoup. Ensuite, bon, sur l'installation, maintenant, effectivement, il faut faire avec. Il y a un mandat qui démarre de 6 années. Nous sommes dans l'opposition. On a 8 sièges. Comment on peut être utile dans ce mandat, à la fois dans notre rôle d'opposition.
Déjà, comment vous êtes considéré ? Comme des pestiférés ou alors complètement invisibles ?
Je vais vous dire, il y a un peu de jeu de rôle dans cette histoire. C'est notre rôle à nous de poser des questions qui dérangent. Ouais. C'est le rôle de la majorité de minorer notre action. Voilà, ça fait partie du jeu politique. Par contre, au-delà de la forme, il y a de telles divergences entre le projet de la majorité actuel et celui qu'on porte dans notre groupe, qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on est en désaccord qu'on ne va pas s'ennuyer.
Citez-moi un ou deux quand même.
Je vous en citer deux.
Allons-y.
Un qui est vraiment structurel, on l'a dit, c'est la transition écologique. Soit on considère que c'est une petite variable d'ajustement un petit peu à la mode, et puis on crée des commissions, mais bon, finalement, ça n'infuse pas dans la politique. Soit on prend le sujet à bras-le-corps et on en fait un modèle de développement. Ça, c'était ce qu'on portait. À voir, moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Il y a un mandat, il a sa chance. J'espère que ça va avancer, mais je pars d'un a priori très inquiet. Ensuite, sur le développement économique, mais d'ailleurs c'est lié, et on l'a dit pendant la campagne, c'est pas une surprise. La vision qui est portée aujourd'hui par la majorité et par monsieur le maire, pour nous, pour moi, va dans la mauvaise direction. Je parle bien sûr du projet Autium, du projet de patinoire notamment. Il y
Je
a
m'en doutais.
plein de sujets dans ce projet qui fâchent. La patinoire, c'est un sujet même de coût
Mais en
sur les
plus, ouais.
finances publiques. Je rappelle que c'est financé quand même sur le budget de la ville. Mais au-delà de ça, est-ce que ce projet répond à des problématiques d'aujourd'hui et de demain? Parce que ce projet, une fois qu'il est créé, on va devoir vivre avec des décennies. Donc, et on voit bien aujourd'hui que peut-être que si on revenait en arrière sur certains projets passés, on ne le ferait peut-être pas de la même manière. Or là, on essaie de calquer un modèle qui a déjà prouvé ses faiblesses et on se projette en disant c'est pour les 30 prochaines années. Ben, moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est déjà pas bon aujourd'hui, ça sera encore moins dans 30 ans. D'autant plus si c'est grévé sur nos finances publiques. Donc, sur ce projet fondamental, mais qui est vraiment structurant, hein, c'est une vraie opposition. Ce projet, moi, je le combats. Je vois un entêtement et le contexte actuel de crise, on doit se poser les questions. Que nous a dit ce confinement, cette expérience qu'on a vécue, qui a mis à mal quand même notre économie, mais qui a ouvert des perspectives, notamment d'attractivité du territoire. Je ne suis pas convaincu que dans cette logique, qui nous est imposée, hein, ce projet trouve sa place. Bien au contraire, je considère qu'il va nous freiner. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de sujets de divergence qu'on va continuer à porter. Les choses ne sont jamais fatales, hein. On peut continuer à défendre des idées et à faire évoluer le projet. J'espère qu'on le pourra. Mais il faut aussi que les décideurs politiques apprennent à regarder et à remettre en cause certaines décisions qu'ils ont pu prendre. Et je me l'implique à moi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, je réévaluerai certaines idées que j'ai eues. Mais heureusement, c'est une simple honnêteté intellectuelle. On passe notre temps à prouver par A plus B que ce projet est mauvais. Il va falloir que ça soit entendu. Que ça soit entendu.
Et je reviens justement à ce premier conseil municipal. Vous êtes 8. Comment ça se passe dans le conseil? Vous êtes au fond de la classe, et puis vous n'avez pas, enfin, la parole, il faut lever le doigt, et puis vous n'êtes pas écouté, ou alors écouté, comme disait Mitterrand en son temps, j'écoute avec beaucoup d'attention, mais je n'en tiens aucun compte. Monsieur Hamel devait dire des choses à peu près similaires, m'a-t-on rapporté déjà. Comment ça se passe? Vous avez des postes, vous avez des...
Alors c'est un exercice un petit peu particulier, effectivement, pour dire aux auditeurs comment fonctionne une majorité municipale. C'est la loi électorale qui le veut. La majorité a d'office au moins 3/4 des sièges du Conseil, ce qui lui assure une majorité confortable et qui lui assure de faire passer toutes ses décisions. Donc, en tant qu'opposition, on a un rôle surtout d'alerte et surtout d'essayer de pointer des aspects d'une problématique qui nous semble inquiétant, allant dans la mauvaise direction, demander des précisions. Bon. Et si on peut, trouver un espace constructif pour pousser des propositions. Comment ça se passe à Dreux? Bon, on est encore au début, hein, il faut trouver son rythme. On peut pas dire que ça se passe de la manière la plus agréable possible pour l'instant. Chacun, je pense, doit trouver aussi ses marques, c'est valable aussi pour la majorité. Bon, voilà, c'est pas un rôle très facile. On est dans des commissions de travail, ce qui est aussi presque réglementaire. Hein, mais, donc, on a un certain nombre d'accès à l'information. On fait le travail pour analyser les sujets dans la mesure de nos possibilités. Bon, voilà, c'est un exercice qui, effectivement, vu de l'extérieur, peut paraître assez difficile à appréhender. Mais voilà, il faut que les citoyens comprennent qu'une opposition municipale n'a pas un rôle dans la décision.
Même quand on regarde la photo de famille, quel que soit le bord politique ou celui des listes,
Oui.
on s'aperçoit d'emblée, et c'est frappant, qu'il y a une très forte proportion de personnes d'âge jeune. Est-ce que c'est pas plein d'espoir. Quand je vous vois, vous, quand je vois monsieur le maire, quand je vois certaines autres personnes sur cette photo de famille, moi je suis plein d'espoir de voir ces gens-là d'une quarantaine d'années ne peuvent pas ne pas s'entendre pendant 6 ans. C'est pas possible.
Bah, ça peut-être vous choquer, mais moi je ne suis pas du tout un partisan du jeunisme par principe. C'est
C'est
pas
pas du
parce que.
jeunisme. À 40 ans, c'est plus du jeunisme. Hein,
Oh bah. Vous savez, certains pensent que 40 ans, 50 ans, c'est encore très jeune. Et c'est le cas. En
Ah bah
fait, la question,
oui, non, mais
c'est.
c'est pas ce que je voulais
Déjà,
dire.
est-ce qu'on est jeune dans sa tête? On peut avoir 20 ans et avoir des idées qui sont
Ça,
très
il y a ça
obsolètes. Hein,
aussi, oui.
ça arrive. Et à l'inverse, être très progressiste, même après beaucoup d'expérience. Donc, c'est une question de mentalité, c'est une question de conviction politique aussi. Pour le coup, on ne partage pas les mêmes, même si on a un âge très proche. Je parle de monsieur le maire et moi-même. Donc voilà, c'est pas l'âge qui fait la valeur du dynamisme. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre pour qui c'est la première expérience élective. Je pense que ça apporte un vent frais parce que ça permet de reposer les questions. Ça fait jamais de mal de se remettre en cause, même pour ceux pour qui c'est pas le premier mandat. Donc on peut apporter ça. On peut apporter aussi des idées nouvelles puisqu'on a un pied plus récent dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et j'espère pouvoir contribuer à apporter ces nouvelles idées, ces nouvelles perspectives. C'est la démarche dans laquelle je m'inscris, hein. Je ne suis pas là pour faire de l'obstruction bête et méchante, je l'ai déjà dit. Par contre, moi, je suis très vigilant à ne pas brutaliser les transitions générationnelles. C'est-à-dire que on est dans un moment où aujourd'hui, on n'a qu'une certitude devant nous, c'est que on sera dans l'incertitude, structurellement. Et donc face à ça, ça impose plusieurs choses. La première, de considérer qu'il faut remettre en question beaucoup de choses acquises, parce qu'il faut les réévaluer à l'aune d'une équation, d'éléments d'une équation qui ont changé. Donc il faut s'autoriser à repenser certaines choses qu'on pensait certaines. Mais en même temps, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Il y a des choses du passé qui sont précieuses, qu'il faut savoir garder, moderniser, mais prendre avec nous dans ce voyage continu. Hein. Et donc, je pense que la clé est plutôt dans la passerelle entre générations que dans une rupture et dans une vision de bon, bah, c'est notre tour. Bah non, il faut avancer ensemble. La société est très complexe, très diverse. Il faut que ceux qui ont la décision politique entre leurs mains en intègrent toutes ces composantes. Donc moi, je ne suis pas là pour dire place aux jeunes, je suis plutôt là pour dire aux jeunes, engagez-vous, parce que vous êtes l'avenir aussi d'un territoire comme le nôtre, mais de toujours tendre la main, d'écouter. Mais du coup, c'est valable pour l'autre côté aussi. Il faut aussi laisser de la place à des idées neuves et à des nouvelles manières d'appréhender un problème. Et je pense que là, les jeunes ont quelque chose à apporter au débat public. Donc voilà, plutôt de la mixité générationnelle, c'est plutôt ça qui m'intéresse.
Ah bah c'est à la troisième question. Jeudi 9 juillet, élection du président de l'agglomération et des vice-présidents. J'ai été surpris du public présent. Je pense que nous étions à peu près 200 à assister à cette élection bizarre où tout était préparé à l'avance. Un seul candidat à la présidence et à chaque fois un seul nom pour les 15 vice-présidents, sans qu'on sache pour quelle fonction ils allaient être vice-présidents et s'ils avaient été choisis pour une compétence particulière. Leur représentativité ou pour répondre à ce que disait Jean-Pierre Chevènement à une certaine époque. Tout ce petit monde a été élu avec des scores soviétiques, sans aucune candidature spontanée et très peu de bulletins nuls. Quel est le milieu autorisé, comme aurait dit Coluche, qui a organisé ce grand moment de démocratie? Patrick Rill a même affirmé que c'était normal que ce soit organisé à l'avance, sinon on y passerait la nuit. Est-ce sérieux? Pour une équipe dont les décisions vont influencer la vie quotidienne de plus de 100 000 habitants. Et vous, élu d'opposition, avez-vous été ignoré, voire exclu de toute décision préparatoire?
Alors, effectivement, c'était là encore pour moi une première, un conseil communautaire. On est 123 conseillers dans cette agglomération, avec une spécificité, c'est-à-dire qu'il y a 81 communes, mais dans lequel il y a deux communes urbaines, c'est-à-dire Dreux et Vernouillet. On va dire 79 autres sont des communes, qu'on va dire rurales, donc plus petites, ce qui crée forcément aussi une distinction dans leur représentation dans ce collège de 123 conseillers. À Dreux, il y a une grosse vingtaine de conseillers pour Dreux, dont 5 de l'opposition. Donc nous sommes 5 de notre liste à siéger au sein de ce conseil. Effectivement, on a une position singulière puisqu'on est dans l'opposition d'une des villes de l'agglomération. Tous les autres, en général, sont les maires de ces communes. Donc, c'est pas du tout le même rapport. Là encore, je pense qu'il faut assumer et être transparent vis-à-vis des citoyens. Ce qui se passe dans une agglomération, c'est un petit peu particulier. D'une, c'est un suffrage qui est indirect en ce qui concerne le bureau exécutif de cet agglo. Il faut le voir, c'est plus proche de ce qui se passe. Moi, j'ai tendance à le comparer aussi à l'Europe. C'est plus proche de ce qui se passe au Conseil européen que ce qui se passe dans un gouvernement. Parce que on n'est pas dans des logiques de majorité et d'opposition, on n'est pas dans des logiques d'affrontement politique, on est dans des logiques de territoires qui se représentent et qui discutent entre eux d'un projet qui va tous les concerner. Donc, c'est une recherche de consensus, c'est une recherche d'équité, de solidarité, d'écoute. Bon. Et donc, ça demande une approche différente de celle qui peut, par exemple, avoir lieu dans un conseil municipal. Donc, pour moi qui suis un petit peu nouveau, j'observe, j'apprends beaucoup. Et effectivement, la démarche est différente. On est moins dans l'affrontement que dans la recherche d'un consensus qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Je pense qu'au contraire, c'est un exercice qui est différent. Et tant qu'on sera dans ce modèle d'élection indirecte, ça sera comme ça. Donc après, est-ce qu'il faut le changer? C'est une autre question, mais il faut assumer ce double niveau. Je ne suis pas certain que importer des logiques purement politiques dans une enceinte comme celle de l'agglomération soit très efficace. D'autant que c'est une grande agglomération, donc c'est un gros paquebot. Et
Oui.
déjà complexe à faire avancer. Si...
Une des plus grandes de France, oui.
Exactement. Donc, pour répondre à votre question, comment ça fonctionne? Bon, est-ce qu'on a une place un peu particulière? Je ne vous cache pas que ce n'est pas évident d'être écouté, mais on est aussi au début. Donc, on verra. En tout cas, de la même manière, on sera dans cette approche constructive, et j'ai envie de dire d'autant plus, puisque cette fois-ci, on sera aussi plus éloigné des enjeux Drouot-Drouet.
5 délégués, c'est la loi ou c'est un cadeau?
C'est la loi.
C'est la loi.
C'est les représentations proportionnelles.
D'accord, mais pas de vice-présidence, ni
Non,
de...
ça aurait pu.
Ça aurait
Rien ne
pu.
s'y opposait.
Rien ne s'y opposait.
Rien ne s'y opposait, c'est des enjeux
Là, ça aurait
de...
été un cadeau.
Ça aurait été en tout cas une démarche, un
Oui,
symbole d'ouverture très fort, qui
exactement.
n'a pas eu lieu, je le
Voilà.
regrette. Je pense qu'on a raté une occasion, là encore, de s'inscrire dans la modernité, de ce qu'est une démocratie efficace et ouverte vers l'extérieur. C'est toujours enrichissant que la voix d'une opposition soit entendue, parce que c'est aussi le meilleur moyen de la tester sur son caractère constructif. Donc, je pense que c'est une occasion manquée. Voilà.
Ma dernière question sur la transition écologique. Vous êtes un des rares à avoir répondu à un questionnaire que 60 associations environnementales et ONG avaient présenté à tous les candidats pour les sensibiliser aux faits climatiques. Vous vous êtes déjà engagé en tant que candidat et maintenant en tant que conseiller et délégué. Comment allez-vous peser, pardon, sur la politique de la ville, sur ce vaste sujet qu'est la transition écologique?
Je pense que il y a plusieurs manières d'apporter sa contribution à ce qui est vraiment c'est un peu c'est le débat du siècle, hein. C'est réussir cette transition, ça remet tellement de choses en question, ça demande tellement d'efforts de conversion que c'est un travail de longue haleine. Donc, on doit tous s'y mettre, chacun dans ses possibilités et à sa place. Là aujourd'hui, avec cette casquette d'élu, si je puis dire, ça peut m'offrir une tribune supplémentaire pour exprimer des idées, soutenir des projets. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut faire plus. Je suis assez attaché à la logique de penser. C'est-à-dire que on peut faire avancer cette cause sur des projets très concrets, mais aussi sur de la réflexion. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie cette dimension, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde d'incertitude. Aujourd'hui, personne n'a la solution clé en main pour nous garantir de réussir cette transition écologique, que ce soit au niveau d'une ville ou d'un pays ou même du monde. Et là aussi, il faut avoir l'honnêteté de dire que ceux qui vous promettent des solutions ou des discours yaka faucon se trompent. Se trompent. Aussi bien ceux qui
Les
nient.
Yaka Faucons se sont toujours trompés.
Ouais, mais il y a ceux d'un côté qui nient les exigences du changement climatique, le côté, on va dire, fake news. Bon, bah, eux, ils sont à côté de la plaque. Et il y a ceux qui vous disent que si vous ne vous engagez pas en faisant ce que eux vous disent de faire, vous êtes enfin, culpabilisé.
Oui.
Je pense qu'il y a un espace entre ces deux extrêmes où se trouve justement un espace de création de connaissances nouvelles. Et moi, c'est cette démarche-là qui m'intéresse. La connaissance nouvelle, elle se trouve souvent dans la confrontation d'idées différentes. Donc la démarche qu'on a eue avec cette liste était un premier pas. Je pense qu'il faut poursuivre en y intégrant des citoyens, des associations, de l'analyse comparée de territoire, aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, voilà, relancer la machine à penser. Et je pense qu'une partie de la réponse sur la mobilisation citoyenne aux élections, ce qui était notre premier sujet, une partie de cette réponse se trouve dans cet exercice d'agora citoyenne, où il va falloir créer les solutions ensemble, puisqu'elles ne vont pas nous tomber du ciel.
Ça, il y a des chances, oui. Je laisse la parole à Madame Duval-Pétrix pour vous poser la question.
Oui, bonjour Maxime David. Vous étiez donc candidat aux dernières élections avec l'étiquette LAREM.
Oui.
Vous êtes toujours coordinateur pour le centre Val-de-Loire.
Oui.
D'accord. Donc la situation étant ce qu'elle est, votre place dans l'opposition à la mairie et à l'agglo, quelle est votre feuille de route pour les prochains rendez-vous électoraux?
Alors, sur effectivement mon ancrage politique, je n'ai pas d'ambiguïté. J'ai soutenu l'élection d'Emmanuel Macron. Je suis aujourd'hui un membre actif de son mouvement. J'en suis fier, je l'assume, je le revendique. Donc on va avoir effectivement des prochains rendez-vous électoraux nationaux et locaux. Je m'y engagerai parce que le combat politique m'intéresse et je pense qu'on est dans une période où on doit tous s'engager, on ne peut pas rester neutre. Et donc je prendrai ma part à la place qui est la mienne en tant que citoyen tout simplement pour défendre des idées. Ensuite, moi, je fais vraiment la distinction entre ce qui est mon engagement politique sur le plan des idées et ce qui est mon engagement politique pour un territoire. Et j'ai fait un choix très clair. En m'engageant dans cette campagne municipale, si je veux avoir un rôle à jouer de manière élective, c'est pour ma ville, c'est pour ce territoire. Mais je pense qu'il faut savoir construire un discours qui intègre toutes les dimensions. Gérer une ville, ça n'est pas la même chose sur le plan des idées que de défendre un candidat à l'élection présidentielle. On a fait une liste à Dreux qui était bien plus ouverte que La République En Marche. C'était le cas au premier tour. Dans ma liste, j'avais une proportion finalement très très faible de personnes qui étaient adhérentes de La République En Marche. Moi, je ne l'ai jamais caché, mais ma liste n'était pas estampillée La République En Marche.
Oui,
moi, je l'étais.
Oui, oui.
Au second tour, c'était une démarche d'ouverture encore plus large. Eh bien, je considère que cette approche-là pour un territoire comme Dreux est la bonne. Par contre, pour les autres élections, on a des élections a priori en mars prochain, départementales et régionales. Bon, bah, j'aurai l'occasion d'exprimer des préférences sur des candidats, des préférences sur des projets de territoire, parce qu'il faut quand même toujours revenir à ça. Et bien sûr, pour l'élection présidentielle, c'est évident que je m'y investirai pleinement.
Merci.
Maxime David, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions sur Radio Grand Ciel. J'espère que le café n'était pas trop serré. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci à vous. Thank you.